te laisse la place.
Merci beaucoup. Et tout d'abord, mes excuses. C'est définitivement un week-end où je pense que je ne vais pas venir. Parce que quand Jérémy m'avait contacté il y a quelque temps, j'avais dit oui. Le week-end dernier, c'était prévu pour le week-end dernier. J'avais d'autres choses importantes à faire, à l'étranger. Puis j'ai dit oui parce que je ne sais pas dire non. Ça arrive. Et puis aujourd'hui, il y avait encore des choses qui arrivaient et je suis là. Donc je vais juste vous dire, sans embâche, je suis content d'être avec vous. Et de me prêter un exercice qui je dois dire, n'est pas facile pour moi, notamment dans la concision, c'est qu'au fond, carrière et ambition, vous me demandez de raconter ma vie, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une carrière, si vous ne la connaissez pas? La carrière en soi, ça ne veut rien dire, c'est un chemin. Nous sommes tous des étrangers sur la Terre, c'est comme ça que je le prends. Nous sommes beaucoup plus façonnés qu'on ne le pense par les choses qui arrivent autour de nous. Ce n'est pas le hasard, mais nous sommes façonnés, vous le verrez dans ma vie. Donc, il y a un exercice obligé. Je raconterai en aussi peu de temps que je pourrais, au fond, ce que j'ai fait. Et peut-être c'est la chose la plus intéressante pour le dialogue tout à l'heure, puisque vous me poserez des questions. Et puis, on m'a collé ambition. Voilà, je me suis gratté la tête. Et on m'a dit humilité. Alors, je me suis complètement gratté la tête. Parce que je pense que vous en savez plus sur l'humilité, peut-être, que moi. L'ambition, c'est quand on est jeune qu'on a de l'ambition. Et je dirais, pour répondre à David, quand on est retraité, la carrière est terminée et on n'a théoriquement plus d'ambition. Donc j'ai plus rien à vous dire. Et vous voyez bien que ça ne marche pas comme ça. Alors, conférencier actif, c'est je l'essaie, mais en réalité, je commence une nouvelle carrière. J'ai décidé à 65 ans de commencer une toute nouvelle carrière que j'ai préparée, qui est une carrière académique. Avec deux grands pôles, je suis actuellement le président de toute la recherche des écoles des mines et télécoms de Paris et de province. Et je suis également le président du secteur grande entreprise de l'INSERAD. Donc j'ai deux pôles, management et l'autre pôle technologie. Et puis des choses autour, beaucoup d'associations. Donc je suis toujours là-dedans, je pourrais dire, tiens, voilà un addict de plus. Qui ne peut même pas prendre sa retraite, c'est ce que pense un peu ma femme de temps en temps, et qui a toujours besoin de s'occuper. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui vont s'entrechoquer, mais c'est à vous de faire la différence et de nous poser des questions à Jacques et à moi. Alors Jacques, c'est un vieux compagnon de route, mais on ne s'est pas passé un seul coup de fil avant, il n'avait pas le temps. Et puis heureusement qu'on a quelques points d'intérêt commun qui sont un petit fascicule que vous connaissez certainement, qui est celui-là. Alors, je ne sais pas, Jacques, si tu as fait économie d'énergie en écrivant l'article et en disant la même chose ici, ou si c'est l'inverse. Pas tout à fait. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire, cet article, parce que ça va me permettre d'aller très vite. Alors, pourquoi aller très vite? C'est que généralement, quand on me demande, c'est vrai qu'on me demande souvent de parler du travail que j'ai fait, parce que vous verrez, il y a effectivement des titres et des choses qui paraissent ronflantes, en tout cas, qui étaient assez exceptionnelles, à tout point de vue, exceptionnelles dans ma vie, etc. J'ai souvent besoin d'expliquer pourquoi, pour moi, le monde du travail a été mon monde. Et je suis chrétien, et je le suis devenu vers l'âge de 16 ans. Je raconterai ma première partie de la vie, qui m'a structuré, c'est une partie de la carrière. On se forme beaucoup plus tôt qu'on ne pense. Ce n'est pas en ayant des parchemins et des examens qu'on se forme, c'est avant qu'on se forme. Et donc, souvent je dois expliquer que, enfin je me sens un peu obligé d'expliquer que l'activité de l'entreprise fait aussi partie de la sphère économique et que la sphère économique fait partie de la création de Dieu. Je l'affirme juste, mais ce coup-ci je n'ai rien à affirmer. Si vous ne l'avez pas lu cet article, regardez-le, il est génial.
C'est dans le Jébuma.
Bien sûr. Bah, je pense que vous êtes tous abonnés, non?
Oui, mais il vient de sortir, donc certains n'ont pas encore eu dans la boîte.
Ah bah voilà. Ah bah voilà. J'ai eu de la chance parce que quand je suis revenu d'Allemagne, ouais, mon épouse qui a fait le courrier, je l'avais posé. Et je me suis dit génial. Alors écoutez, donc vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire, mais une fois que vous avez lu ça, vous allez tout comprendre. Pardon? Vous pouvez partir. Mais je crois que David dit autre chose. C'est bien de se connaître.
Ouais.
Et donc, si on peut.
Voilà.
Alors, je vais vous dire très très rapidement que les quelques mots-clés pour moi, c'est une fois qu'on a expliqué qu'il ne faut pas s'excuser ou l'inverse d'être dans un monde, dans l'autre. D'ailleurs, c'est le même monde, c'est le monde de Dieu. Okay. Un verset qui a toujours été important pour moi, c'est Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes, les bons et les méchants. Donc, je suis homme avant tout. Je suis homme avant tout. Et d'être chrétien me donne juste un privilège d'avoir une relation avec Dieu, à aucun moment me donne un droit, à aucun moment me met dans une classe supérieure ou une classe différente. C'est fondamental ça, dans la vision du monde. Et on passe par les mêmes chemins, les mêmes épreuves et les mêmes problèmes que tout le monde. Et sur notre chemin, il y a l'apprentissage. Et il y a trois façons d'apprendre. On apprend sur le tas, c'est l'apprentissage, la formation. On peut apprendre dans les livres, et Dieu a mis à notre disposition un très bon livre qui s'appelle la Bible, et notamment pour moi, l'Ecclésiaste, la sagesse, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Et puis, comme nous disent nos amis anglo-saxons, si on n'apprend pas sur le tas, si on n'apprend pas dans ce qui est écrit, dans ce qu'on nous enseigne, we will learn it the hard way. Vous comprenez ça? On va l'apprendre de façon difficile. Alors, je suis grand-père. J'ai 6 petits-enfants et un 7e qui est en train de venir. La relation entre la main de l'enfant et la porte chaude du four, vous connaissez la relation, d'accord? Vous êtes beau Dieu, etc., jusqu'au jour où ça y est, on l'attend. Et ça, souvent dans notre vie, c'est ça qui nous amène d'ailleurs à l'humilité. L'humilité pour moi, en deux, trois mots, puisque vous les avez demandé comme passage obligé, je me méfie beaucoup d'une humilité qui devient un petit peu une dépréciation de soi-même. On n'est pas bien, enfin bref, on n'a pas le droit d'être ce qu'on est, on n'a pas le droit de rêver de ce qu'on pourrait être. C'est pas ça l'humilité. Pour moi en tout cas. L'humilité, c'est chaque fois que je rencontre mes limites, chaque fois que je vois que je suis qu'un homme, chaque fois que je me prends une tuile sur la tête et que j'ai la chance de rebondir, c'est là que je suis le chemin de l'humilité. Voilà. Donc je vais vous raconter, ayant dit ça, ma carrière, très rapidement, comment l'ambition a pu jouer. Ce que c'était. Et puis derrière, ce côté de comment, on va dire en deux mots, comment Dieu s'est davantage servi de ce que j'ai vécu dans ma vie que peut-être de moi et de mes dons de là où j'étais. Vous suivez? Dieu a beaucoup plus servi des choses à travers lesquelles je suis passé que de ce qu'il a pu faire à travers moi à cet endroit-là. Et ça, c'est pas de la possibilité, c'est du vécu. Alors, mon expérience avec le travail, ça commençait très jeune. Dans une famille de l'Est, grand Est de la France, l'Alsace, à 7 km de la frontière allemande, juste l'après-guerre. Notre famille était passée par deux guerres. Mon grand-père a vécu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on a eu des pertes, perdu un oncle, et puis voilà. J'étais le fils de deux parents. Jusque là tout va bien, mais qui se sont séparés à 8 ans. Ils avaient un choix à faire. Et ça ne divorçait pas à l'époque. Ils étaient juste séparés. Ils avaient un choix à faire. Pour tout vous dire, mon père était revenu de la guerre et mon père avait beaucoup de problèmes avec l'alcool. Et ma mère en a subi les conséquences. Elle était, depuis mon plus jeune âge, en dépression nerveuse chronique. Donc vous imaginez un jeune homme de 8 ans, le premier étrage de 4, et tout s'écroule. Il y a un choix à faire. Vous habitez avec votre père, vous habitez avec votre mère. Et à 8 ans, je me souviens, mais comme si j'en avais 16, c'est pour ça que faisons très attention à la conscience des personnes. À 8 ans, j'avais l'impression que j'étais formé à travers tout ce qui s'était passé déjà. Et j'ai dit, je vais avec la seule personne en qui j'ai confiance, c'est mon grand-père. Vous savez, chez mon grand-père. À l'époque, vous ne connaissez plus, il n'y avait pas de retraite agricole. Il n'y avait pas. On vivait sur 10 hectares de ferme et mon grand-père n'avait pas de retraite agricole. La première ambition, je ne savais même pas ce que c'était d'aider mon grand-père qui prend soin de moi. Et je poussais le cheval et je poussais les vaches et je l'aidais à monter le foin, etc. J'étais devenu un fils de la terre. Et là, on savait qu'on ne contrôlait rien. On semait, on n'arrosait pas, c'est trop compliqué. Il pleuvait pas. Enfin, bref, j'ai vécu tout cela. Jusqu'au jour où, vers 70 ans, mon grand-père est rentré en disant « Maintenant, j'ai plus besoin de travailler, j'ai la retraite agricole. » J'ai rien compris, sauf qu'on a vendu les vaches, le cheval, etc. Et puis j'avais l'âge aussi à ce moment-là d'aller au lycée. Voilà. Donc voilà comment je me suis formé. Plus tard, j'ai retrouvé mon père. J'arrive, on se réconcilie. Je suis adolescent. Mon père est dans la maçonnerie. Il est une petite entreprise. Et il m'emmène tous les étés refaire des maisons. Donc on refaisait des maisons alsaciennes. Vous voyez, des belles maisons, là, noires, blanches, etc. Et puis moi, j'étais celui qui faisait les petits trucs et j'adorais ça. Donc mon métier, après avoir été paysan, fermier, avec mon grand-père, j'étais, comme on dit, contracteur avec mon père. Je savais tout faire, l'électricité, l'eau, etc. Je savais tout faire. Je travaillais avec lui, ça nous a un peu rapprochés. Mon père était très exigeant. Bref, j'ai fait ce métier-là. Et j'avais aussi l'ambition de retrouver un contact avec mon père. Voilà comme je dirais. Vous voyez très bien que derrière ambition, il y a ce désir. Désir de trouver. Puis je trouve que j'étais bon en classe. Ça, c'est vraiment l'ascenseur républicain de la France. Surtout d'autrefois, peut-être un peu moins aujourd'hui. J'étais bon en classe et bon en maths. Voilà. Ça, c'est le sésame. Voilà. Et vous êtes bon en maths au lycée de Wissembourg. Vous êtes bon en maths au lycée de Strasbourg. Et puis vous faites des concours. Et puis c'est pas pour... Je suis pas venu ici pour me flatter. C'est trop tard, de toute façon. J'étais premier à l'ensemble des concours que j'ai passés. Premier à Polytechnique, premier à Centrale, premier au Mini. Alors pour le petit gars de la campagne qui arrive là, il y a de quoi se griser la tête. Et ce qui s'est passé, c'est l'inverse. J'avais peur. Je venais de ma campagne, je m'étais à peine habitué à Strasbourg, que voilà, je suis à Paris. Et d'ailleurs, l'avantage de Polytechnique, c'était à l'époque d'avoir le train gratuit. Ce qui fait que tous les week-ends, je suis rentré en Alsace, voir mon groupe de jeunes. Parce qu'à 16 ans, c'est pas que j'ai passé quelque chose dans ma vie, j'étais athée. Je voulais être athée. C'était pas possible dans une famille de tradition protestante, des parents, ce chahutait plus que ça, où je suis parti, qui vous envoyait au catéchisme. Il dit, c'est pas possible ça. On marche sur la tête. Et donc, avec un autre ami qui avait pas les mêmes problèmes que ça, nous avons beaucoup étudié, pas mal de choses. On nous disons à 14-15 ans, Kierkegaard, Nietzsche, tout ça. Alors, comment on peut faire? Vous savez, n'oubliez pas que les auteurs qui nous paraissent aujourd'hui d'il y a quelques siècles, ils avaient à 20 ans, notamment, comme Calvin, écrit beaucoup de choses. Hein. Alexandre le Grand est mort à 27 ans. Donc on a une lecture aujourd'hui, un peu du passé, on a l'impression qu'à 8 ans on ne sait pas réfléchir, à 16 ans on est sur son iPhone, c'est pas vrai, à 16 ans on lisait un certain nombre de choses, on peut avoir une certaine maturité en fonction des choses qui vous entourent. Donc je suis né là-dedans, toujours un peu sous la contrainte, toujours avec un désir de savoir un petit peu où on va, etc. Et ça, je vous dirais, c'est certainement ça, c'est certainement une marque de fabrique, en tant que personnalité, en tant qu'homme. Ensuite, évidemment, il y a des possibilités qui s'ouvrent devant vous. Et alors ma carrière, très rapidement, toujours balancé très très jeune à des postes de très grande responsabilité, parce que ça, c'était la France. Donc à 25 ans, je me trouve en Alsace, parce que personne ne voulait y aller, le cœur des mines, personne ne voulait y aller, donc j'allais en Alsace, j'avais la joie de descendre tous les jours dans les mines de potasse pour voir ce qui se passait, et on a construit Fessenheim, ça veut dire quelque chose, Fessenheim. Voilà. Et ensuite, EDF a trouvé que j'étais tellement bon à construire Fessenheim qu'ils avaient des centrales établies un peu partout et qu'ils voulaient qu'on fasse des lignes électriques. Donc on faisait 700 km de lignes par an pendant 5 ans. J'étais patron de ce service. On investissait 4-5 milliards d'euros, j'avais 29 ans. Entre 29 ans et 35 ans. Voilà. Et puis, quand tout ça s'était terminé, j'ai été appelé par le président de la Compagnie Générale de Géophysique qui m'a dit « Brinck, intéressant, qui est encore un des rares, parce que bon, encore des mines, c'est un peu les réseaux quand même, hein, je veux dire. Et donc, mais on est happé par les réseaux, mais on peut être démoli par les réseaux, si vous n'arrivez pas à faire face à ça. Donc il m'a dit, t'as fait des mines, tu fais pas mal d'ingénierie, je cherche un successeur, mais tu sais, Schlumberger peut nous acheter tous les jours par son papier de cigarette, je te propose quelque chose. Je dis, qu'est-ce que tu me proposes? Je dis, mais voilà. J'ai le choix entre, je ne vais pas t'envoyer au Nigeria avec tes trois enfants, je dis non, ce sera un peu trop dur la gosse. Enfin les gosses, j'ai rien contre le Nigeria, après j'y étais, qu'est-ce que j'y étais dans le Nigeria pendant toute ma vie. Et puis, il me dit Singapour ou les États-Unis, je dis tu choisis, mais ça m'intéresse. Et puis il dit voilà, c'est les États-Unis, et où? Denver, Colorado, je dis waouh, c'est le Grenoble, les États-Unis. Et je rentre chez moi, mon épouse, nos enfants de 12 ans à 6 ans, disent, voilà, j'ai une proposition pour aller aux États-Unis. CGG, c'est quoi CGG? Le général de géophysique. États-Unis, les enfants, tout le monde dit, waouh. Donc on y va. Voilà, voilà. Voilà comment se font les chemins. Donc on y va. Et à partir de ce moment-là, voilà, c'est vraiment l'engrenage. 10 ans de progrès technique extraordinaire. C'est le métier qui est rentré dans le digital avant plein de métiers. Jacques l'a suivi, donc il pourra l'expliquer. Mais on est rentré dans le digital avant tout le monde, dans le cloud computing avant tout le monde, dans le big data avant tout le monde, dans les transmissions de données avant tout le monde. Les télécoms et tout ça, ça s'est développé en même temps, mais on était des pionniers. Donc j'ai eu cette chance extraordinaire. Pour moi qui aime bien que les neurones tournent, quand même, on est à peu près disposé à certaines choses ou pas, de passer dans ce domaine-là. Le deuxième aspect de ce métier, c'est que c'est un métier vraiment global et géopolitique. Donc j'ai travaillé dans une cinquantaine de pays régulièrement, et la compagnie était dans une centaine de pays sur 4-5 ans. J'ai fait quand même hors de France facilement 180 à 200 jours par an, pour aller voir mes clients, pour aller voir, etc. Avec, là, il faut que le pacte familial tienne bien. Et il y a un certain temps où vous pouvez faire ça. Donc je suis devenu un petit peu, non pas seulement un homme d'entreprise, l'entreprise dans le monde, mais un peu un entrepreneur mondial. J'ai eu tellement de succès que quand est arrivé le coup dur du pétrole à 7$ le baril, j'ai trouvé à 80 qu'il est cher, mais il était à 140, à 45, il est descendu à un moment donné à 7, très volatile. Tout s'est écroulé autour de nous. On a failli se rendre à Schlumberger, et Schlumberger n'a pas voulu de nous, en disant vous allez de toute façon mourir tout seul et on vous rachètera à la casse. C'est là que nos actionnaires qui étaient Total, LPO, qui nous ont dit, les Robert, les jeunes, vous allez faire mieux. Et là, je vous raconte une histoire qui est la suivante. J'avais des bons amis dans un mouvement qui s'appelle les navigateurs, qui font des choses, et j'ai toujours. Je suis président des navigateurs Europe, du conseil d'administration. Je suis très engagé dans ce mouvement, et je crois que les élus, on se connaît réciproquement. Et c'est là que on était allés ensemble à un monastère. On aimait bien, tous les 3 mois, aller ensemble et puis voir ce qu'il y avait à nous dire, prier ensemble. Et c'était un moment assez crucial entre la tension de ces contraintes de travail. C'est assez dur, même si vous avez une certaine capacité à le faire. Et puis la présence familiale, et puis votre épouse, il faut qu'elle trouve son compte aussi. Je l'ai bien intégré, et je suis sorti dans la prière, annoncer le moment. Le moment est venu du chantier. Et dès que vous dites ça, vous avez 3-4 propositions sur la table. Donc j'ai un peu fait du lobbying, et à ce moment-là, l'École des mines de Paris m'a dit, on cherche un directeur de l'École des mines de Paris, c'est formidable, un ancien industriel, etc. etc. Et moi, j'étais très attiré, parce que j'avais toujours, par ailleurs, ce désir d'être avec les plus jeunes. Voilà, parce qu'être avec les jeunes, un, ça rajeunit, ça questionne, et troisièmement, ça ne prend pas la tête. C'est quand même un monde, vous êtes décapant, comme les ados l'étaient, comme les enfants l'étaient, vous êtes décapant. Et j'aime toujours, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je reste en contact avec ça. Et puis là, c'est passé quelque chose de très étrange, comme quoi la carrière... Si on se laisse diriger par Dieu, et c'est pas du tout, vous allez voir, c'est pas du tout mystique. Il y a des surprises et bon, la guerre est suivante. Quand on est jeune, on a l'impression qu'on est quand même un peu le produit de son environnement. On n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi l'endroit où on vivait, on n'a pas choisi forcément ça. Et quand on est un peu plus âgé, quand on a un parchemin, quand on est à certains endroits, surtout quand on est fonctionnaire de la République comme moi, on a l'impression qu'on domine un peu les choses et qu'on peut choisir, n'est-ce pas? Et ça peut un tout petit peu vous induire en erreur. Donc, je cherche, je me dis, bon, mes actionnaires à qui m'avaient dit, Robert, vous allez faire mieux, je dis, ben non, pas ce coup-ci, j'ai envie de faire autre chose. Ah non, c'est pas possible, vous pouvez pas, je fais court, mais je dis, ce coup-ci, c'est autre chose. Et arrive un dimanche soir, je suis chez moi, le téléphone sonne, il y a mon ami Jean Robertson, qui à ce moment-là était un navigateur, qui était responsable de la France, qui est aux États-Unis, et régulièrement je passais, on faisait des retraites ensemble. C'est bien d'avoir quelqu'un vis-à-vis de qui vous êtes redevable, et c'est cette notion de... Je suis sûr au GBU, pratiquez aussi cette notion de pas être seul dans son coin, de pouvoir raconter des choses, d'échanger. Et je dis, Robert, comment ça va? Ça va pas bien du tout. Pourquoi? Ben, parce que tu vois, demain je vais donner ma réponse positive à l'école des mines et j'ai pas la paix. Puis après, pour moi, c'est pas mystique. À l'aise, je sais pas, je comprends pas, il y a des choses bizarres qui se passent en moi. Et il me dit, mais Robert, moi non plus. Je dis, attends. Tu me dis ça maintenant. Ça fait 3 mois qu'on était dans le monastère ensemble. Je dis, oui, mais tu vois, plus j'avance, plus je le sens pas. Je dis, attends, t'as au moins une raison. Je dis, oui, parce que tu sais, nos discussions s'est beaucoup focalisées sur l'entreprise a besoin de toi, t'es le seul gars qui était là depuis 15 ans, elle était en faillite à cette époque-là, tu peux la redresser et tout. Mais moi, je vois, tu vois, c'est pas tellement ce que tu vas faire dans l'entreprise qui va être important, mais c'est ce que Dieu va faire à travers cette situation dans ta vie. Ah, j'ai, t'as au moins un argument. T'as au moins un argument. Ok, je dis, bon, je raccroche le téléphone, je dis, la prochaine fois, tu me diras quand même plus tôt. Hein. Et puis, tu me laisses pas marner comme ça. T'es une très bonne amie. Je raccroche. Je rentre dans le salon, c'est peut-être la clé de l'explosion. Je rentre dans le salon, ma femme me lit certainement un magazine GB ou autre chose, enfin, du retard sur croire et vivre, etc. Voilà. Et elle me regarde. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah, j'ai de l'argent au téléphone. Elle me dit, alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, voilà. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Je dois dire, je suis un peu furax. Parce que, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, mais moi, je pense pareil. Ah, je dis, attends. Comme ça, attends. Possible. Et pourquoi vous ne me dites rien? Ma femme me dit, parce qu'on te connaît. Je te connais. Et si ça vient de nous, eh bien, un, tu écouteras mieux, pas. Et deuxièmement, si on te l'avait dit, tu aurais toujours regretté peut-être de ne pas avoir fait ces choses. Alors là, le lendemain matin, j'ai dit à l'école des mines, excusez-moi, je reviens sur mon truc, et je vais dans Saint-Tropez. Je pourrais poser plein de questions. L'entreprise était en faillite, mais vraiment faillite, on l'a redressée, etc. On a acheté une vingtaine de compagnies en 10 ans, on a multiplié les chiffres d'affaires par deux, on est sur New York, on a acheté toute la géographie qui était passée parce que c'était difficile et tout. C'était hyper intéressant, souvent très stressant, souvent assez épuisant, mais voilà ma carrière. Voilà ma carrière dans les grandes lignes. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? 2-3 choses, c'est qu'on ne maîtrise pas grand-chose. J'aimais beaucoup être en contact avec les hommes. Je dis comme je pense. S'il n'y avait eu que les choses à faire, je crois que je me serais ennuyé. Mais les gens que j'ai rencontrés, c'était formidable. L'équipe qu'on a pu construire ensemble, c'était formidable. Pas romanesque, mais c'était formidable. Ce que j'ai pu apprendre, à tout point de vue, c'était vraiment très intéressant. Et c'est ça qui me tenait. Voilà. C'est arrivé le moment où j'avais promis à ma femme qu'à 60 ans, j'arrêtais d'être Premier ministre, je serais un peu président, et puis je ferai autre chose. Voilà ma carrière, vous pourrez me poser plein de questions là-dessus. Ça, c'est sur le côté carrière. Maintenant, l'ambition. Alors là, j'ai un peu lutté, parce que l'intérêt de ces conférences, j'en fais pas trop, c'est quand même, sur un certain nombre de sujets, c'est de devoir réfléchir. Voilà. Et puis sur l'ambition, je me suis posé la question, bon, bah, c'est quoi l'ambition? Bon, alors, comme tout le monde, on va un peu dans le dictionnaire, parce que c'est quand même plus facile, tout le monde des dictionnaires, dans le langage commun. Donc j'ai vu qu'il y a 3 types d'ambition. Je savais que c'était associé au désir, le désir de faire quelque chose, de faire mon grand-père, de réconcilier avec ma mère, de connaître les autres cultures. C'est un peu une ambition, c'est un désir, c'est des choses intéressantes. Donc il y a un type d'ambition à laquelle je me reconnaissais bien, c'est le désir ardent de parvenir à quelque chose. L'ambition de réussir. Ensuite, il y a un désir ardent de gloire, d'honneur, de réussite sociale. Un homme dévoré d'ambition. Est-ce que ça m'est arrivé? La tentation était grande, bien sûr. C'est là où il y a Dieu, le diable est juste à côté, et on passe facilement de l'un à l'autre. La roche d'Arcane, c'est très bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que dans notre philosophie chrétienne, on attache tellement l'ambition, l'humilité, un certain nombre de choses, parce qu'on voit surtout la roche d'Arcane. Et elle est là, la roche d'Arcane. Et à la roche tarpéenne, c'était le capital, il y avait une roche, c'est là qu'on jetait les prisonniers de guerre des Romains. Et Donc l'empereur allait vers le capital pour être glorifié, et les esclaves qu'il ramenait, on les jetait par la portière. Okay. Et si jamais un jour l'empereur ne plaisait plus à son peuple, il était jeté par la roche tarpéenne aussi. Excusez-moi. C'est mon côté littéraire. Et puis, il y a une autre ambition qui est limitative. C'est la prétention de réussir quelque chose. Je n'ai pas l'ambition de résoudre cette énigme. D'accord. Alors, je me suis dit quand même, ça c'est le dictionnaire, c'est quelque chose, c'est intéressant, mais que dit la parole de Dieu? Que dit la Bible? Et surtout, oui, j'avais autre chose dans la vie, à un moment donné, quand je me suis converti, à 16 ans, d'être effectivement cet athée, ce sont des jeunes Allemands qui étaient venus nous parler de la parole de Dieu, et je n'ai pas pu résister, j'ai voulu résister, puis un jour j'ai craqué devant « Je suis le chemin, la vérité de la vie, nul ne vient au Dieu si ce n'est pas moi. » Voilà. « Dieu si ce n'est pas moi. » Et là j'ai craqué, et là j'ai pleuré, j'ai dit « Ouais, évidemment. » Seigneur, s'il te plaît. Immédiatement après, on m'a demandé si je voulais qu'il se. Et là, j'ai dit, je sens pas. J'ai culpabilisé. J'ai quand même. Et surtout, quelqu'un d'une autre église, que je nommerai la dénomination, m'a entretenu 1 ou 2 ans après en disant, avec tous tes dons, tu devrais absolument être missionnaire. Ça existe. Et je ne sentais pas. Et j'ai eu la force de résister. Et d'ailleurs, que ne lis-je? Notre ambition est de plaire au Seigneur, dans 2 Corinthiens. Je ne donne pas tous les chapitres. Et je suis un atypique, hein, je ne dis pas que ce que j'ai fait, il faut le faire. Mais je ne sentais pas. Donc, l'ambition, je le vois, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Voilà une belle ambition. Que la faire tout autant là où on est, que aux endroits où on se dit on plaira davantage au Seigneur. On le comprend bien ici au GBU, c'est une vision globale des choses. Ensuite, il y a la bonne et la mauvaise ambition. S'il fallait la résumer comme ça, la bonne ambition, c'est un désir, c'est pas bon, c'est pas mauvais, ça dépend de ce qui fuel ce désir. Si c'est aimer quelqu'un, servir quelqu'un, vouloir protéger quelqu'un, vouloir protéger une cause, c'est une bonne ambition. Il vaut mieux ça que de ne rien faire et puis d'être affaibli. En tout cas, me semble-t-il. Mais très très vite, l'ambition est au service de la personne. C'est là qu'arrive l'égoïsme, c'est là qu'arrive la jalousie. Ôte-toi que je m'y mette. Hein. Ça, c'est là qu'arrive la querelle, c'est là qu'arrive les luttes de pouvoir, c'est là qu'arrive la manipulation, c'est là qu'arrive la tromperie. On ne dira jamais ce qu'on pense, et même si on pense quelque chose, on ne le dira pas. C'est quand même la loi du monde et des politiques. Et dans ce genre de choses, autant, puisque je prends cette parenthèse, autant nous mettre en garde sur 2 choses. C'est très 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 bien de connaître ce qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est très 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 bien de prendre des témoignages des gens qui l'ont suivi, qui vous diront avec plus ou moins de transparence qu'ils ont quand même souvent flanché. Et c'est absolument terrible quand on ne sait pas comment le monde vit. Que ce que nous croyons être un idéal, ce que nous croyons être des valeurs sont si peu partagées. Vous savez, je peux vous dire, quand vous rentrez dans ce monde de la politique, de la bagarre internationale, les valeurs dominantes, c'est absolument des valeurs politiques, des valeurs de manipulation, des valeurs où on cherche à vous marginaliser, à vous éliminer, et il vaut mieux comprendre assez vite comment ça se passe. Sinon, c'est pas juste votre carrière qui réussira pas, mais vous-même, en tant qu'individu, vous êtes craché par le système. Et si j'ai une confession à vous faire, nous avons beaucoup enseigné à nos enfants la valeur chrétienne, la valeur d'un certain nombre de choses, et d'être assez préparé à vivre dans un monde dur, impitoyable, et notamment impitoyable lorsqu'il tue pas seulement des systèmes, mais quand il commence à se prendre à l'esprit. Je voulais vous dire ça. Je pense que pour moi, maintenant que c'est en transmission, c'est aussi important de dire voilà ce qui a été l'élan de ma vie, mais attention, il y a un monde qui, évidemment, on ne souhaite pas vous rentrer dedans, mais écoutez ces valeurs. Mais attention, ce monde, il est absolument pas tendre. Et vous faites mieux de le lire, plutôt que, ce qui est arrivé dans notre famille, d'avoir un mariage entre 2 cultures qui ont dû se séparer. Parce que les cultures sont tellement différentes. Pas que l'un est bon, l'un est mauvais, je dis ça comme ça, et à un moment donné, ça ne peut pas coexister. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est extrêmement important de savoir sur quoi les valeurs, les ambitions sont fondées. Bon, tout ça pour dire, très rapidement, que ce qui m'a toujours le plus attristé en matière d'ambition, le plus attristé, c'est tout ce que Paul a pu dire sur les faux prophètes, tout ce que Paul a pu dire sur les luttes dans les églises. C'est, vous savez, l'ambition, la querelle, l'esprit de rivalité, les motifs qui ne sont pas innocents, c'est dans Philippiens, on le voit. Donc, je ne suis pas venu ici pour mettre une mise en garde, mais je vais simplement dire, pour moi, qui avait longtemps culpabilisé de ne pas être missionnaire, je me suis dit, il y a un certain nombre de choses que j'aurais aussi peut-être rencontré ailleurs. Ce n'est pas mon propos, mais il faut aussi se combattre sur le mauvais côté de l'ambition qui peut être ailleurs. Chaque fois que c'est tourné vers nous, ce n'est pas une ambition qui va vers l'aide, elle peut même dans nos cercles nous jouer des tours, et même quelque part encore plus dans nos cercles, parce que nous nous donnons des fois des prétentions et des enveloppes tellement pures, n'est-ce pas ? Donc, aussi une mise en garde, et surtout sur le temps. Je me suis toujours laissé inspirer, je pense, j'ai pas fait, mais laissé inspirer par un dirigeant dans une maison technologique où il faut que les gens soient, où il faut que les gens soient motivés, sinon vous n'en faites rien de votre business, vous n'en faites rien si les gens ne sont pas motivés. Je trouve que ce qui est dit à Timothée, sur le dirigeant dans l'église, c'est idéalement le dirigeant d'une entreprise où les gens peuvent regarder au dirigeant, le dirigeant regarde aux gens. Pas qu'il soit irréprochable, Manuel Valls, c'est bien fait, l'avion. Parce que bon, l'avion de la République sur le match de foot, peut-être. Mais si on regarde le match de foot, on ne dit pas qu'on a une réunion magistrale à la main, avec ce que je veux dire. Mais on peut tous tomber dans ce cas. Loin de moi de dire, d'accord ? Loin de moi de dire ça. Mais il vaut mieux être irréprochable, surtout quand vous êtes chef, et que vous faites la leçon à tout le monde, vous levez l'impôt, et que vous dites, objectif, plus, plus, plus. Donc si vous êtes, si votre crédibilité tombe, c'est-à-dire, oubliez votre carrière, oubliez votre leadership, oubliez tout ça. Alors, est-ce que vous êtes toujours irréprochable ? Bien sûr que non. Deux, trois choses comme ça pour gérer ça. Si on peut ne pas mentir, c'est quand même mieux. Le jour où on a compris qu'en en faisant une bêtise et qu'on est dans un monde à peu près safe, que le monde politique ne l'est pas, et dans l'entreprise on veut l'être, de vous excuser pleinement. Et à la fin de la journée, on dit à ses collègues, on a encore fait une connerie aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et puis, ouais, qu'est-ce qu'on apprend ? C'est juste pour vous dire. Et ça, vous l'apprenez progressivement. Vous l'apprenez progressivement, en tout cas, moi, j'ai appris. Et puis ensuite, un mari fidèle, c'est important pour le pouvoir, la fidélité, c'est pas que le pouvoir, c'est pas que le pouvoir, c'est pas que l'argent, vous savez ce que je veux dire. Réfléchis, vivant de façon convenable, capable d'enseigner. Il n'est pas querelleur, il est pacifique. Que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. Et ce sera ça peut-être l'introduction pour la troisième partie qui est l'ambition, c'est quelque chose de formidable. Si c'est bien, si le moteur est vraiment le moteur de service, ce que je viens de dire, mais attention à la roche tarpéenne. Maintenant, c'est ce que c'est. Attention à la roche tarpéenne. Et c'est là qu'on arrive à la fin. Vous avez très bien vu que mon discours était complètement structuré en fonction des notes de Jacques. Le point numéro 1, c'était la simplicité primitive du paysan. Voilà, les saveurs primitives, etc. La partie 2, c'est qu'il faut des entrepreneurs dans ce monde. Voilà. Et la partie 3, c'est attention, quand il y a des biens, et que ces biens sont éventuellement supérieurs aux besoins, là il y a problème. C'est là qu'intervient, au fond, quoi ? C'est là qu'intervient tout notre positionnement dans notre vie, c'est qui est Dieu ? Qui est Dieu ? En deux, trois mots, à partir du moment où on a réussi, puis dans ces milieux on gagne bien sa vie, puis c'était même public, c'était même gênant de temps en temps de voir ça sur les sites internet, les gens savent ce qu'ils gagnent, etc. La question c'est de savoir qui domine. Est-ce que j'ai envie à partir de maintenant de vivre une vie libre ? Libre, ce qu'on veut. En tout cas, on n'a pas d'attache, on n'est pas esclave de quelque chose. À mon âge, à 65 ans, je peux vous dire, on devient vite esclave de quelque chose. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les addictions, c'est quelque chose. Et si jamais chacun en soi, on est vraiment honnête, à partir du moment où on n'est pas rempli pleinement de choses qui remplissent votre vie, le travail qui est utile, le travail qui sert, parce qu'il y a des, il y a des choses très très importantes sur le travail. Le travail, ça ne peut pas être qu'une ambition. Il est quand même dit que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Il est aussi dit dans Thessaloniciens que celui qui ne fait rien mène une vie déréglée et se mêle des affaires des autres. Donc quelque part, il y a presque un lien entre celui qui bosse et s'occupe de ses affaires et celui qui se met un peu en parasite et s'occupe des affaires des autres. Et ça crée le désordre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je cite un peu toutes ces choses-là en vrac. Très très vite, on n'est plus sur des choses essentielles. Très très vite, ça vagabonde. On a ce qu'il faut. Et l'addiction peut remplir ce qu'on n'a pas. Et pour les hommes de ce genre de carrière, le pouvoir, l'argent, la facilité d'avoir des choses, ça devient quand même assez vite pratique. Où que vous alliez, on vous attend avec limousine, vous avez tout le monde qui vous sert, etc. Et si vous n'avez pas un penseur de rappel, etc., vous pouvez me dire quels sont les penseurs de rappel, vous pouvez tomber là-dedans. Et puis ça devient naturel et ça. Et quelque part, vous devenez paresseux. Ce qui m'a frappé. Alors, tout simplement, alors je vais vous dire ma conviction, c'est que si on n'est pas gardé par Dieu, notre vrai Seigneur, qui nous remplit la vie, mais concrètement, et si on n'est pas gardé par les autres, un cercle très très proche, la famille, votre épouse, des amis honnêtes qui vous disent la vérité, pas de complaisance, j'ai une chance extraordinaire, ma femme ne va jamais avoir de complaisance avec moi. Voilà. J'ai pas besoin d'avoir des critiques, elle me dit ce qui ne va pas. Et c'est positif, c'est des choses extraordinaires. Si vous n'êtes pas gardé par les autres et par lui, attention, on peut vraiment aller un peu vers d'autres choses. Ce qui est très intéressant dans cette façon, parce qu'il faut le dire, sinon ça fait histoire d'épinal, quelques tentations que ce soit avec l'argent, avec le pouvoir, je dirais là, une fois qu'on a un certain niveau d'influence, on en veut toujours plus. La tentation, on se dit, bon, là je suis à voir, mais plus jamais la deuxième fois. La deuxième fois, c'est toujours plus facile que la première. Pour deux raisons. Vous y connaissez le chemin. Et puis, quel est le but de la tentation d'exercer un pouvoir, une influence, de manipuler ou de faire autre chose? C'est que vous voulez être au centre. Et donc, il en faut toujours plus d'émotion. Parce que qu'est-ce qu'on cherche dans dans cette notion de pouvoir? C'est qu'on cherche à se faire du plaisir. Et donc, quand on a franchi une étape, la prochaine, il faut que le plaisir soit encore plus grand. Et donc, on ne va pas s'arrêter à faire la même chose. Vous voyez ? Donc, attention, la vie, les grands. Je voulais juste le dire, pour que vous n'ayez pas l'impression que je suis passé à côté de la vie. Je ne suis pas passé à côté de la vie. Et j'ai eu des luttes. Deux points qui sont des alertes. C'est, est-ce qu'on garde toujours la capacité d'apprendre ? Je donnerai deux images. Celle de Pierre, qui marche sur l'eau. Ce que j'aime bien dans Pierre, qui marche sur l'eau, c'est que il répond à une invitation. Je ne l'avais quelque part. Pierre qui marche sur l'eau, les points sont importants. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Je pense qu'il est un peu provoqué. Même dit, ordonne-moi. Malin, je pense. Viens, lui dit Jésus. Viens, suis-moi, c'est important. Viens. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Parce que là, tout va bien. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il fut peur. Il n'y a pas d'homme ambitieux au sens même de la gloire et de ça qui ne prend pas peur. Et au moment où les hommes prennent peur, notamment quand ils ont la lutte du pouvoir, je veux dire, écartez-vous d'eux. Écartez-vous d'eux. Parce qu'un homme qui prend peur, il ne l'avouera jamais. Un homme qui prend peur, il ne perdra jamais la face. Et si vous êtes sur son chemin, et si jamais vous voyez qu'il a eu peur, il ne vous le pardonnera pas. Là, c'est des grands fous. Et bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il a eu peur. Il a eu peur. Le vent a soufflé. Il a commencé à s'enfoncer. Et il s'écria, au secours, Seigneur. Quelle est la capacité d'apprendre ? Quand on prend cette huile, on sait quand on ne regarde plus le Seigneur, on ne fait plus sur l'essentiel, on s'enfonce. Quelle est la grande valeur de l'apprentissage et de ces épreuves? C'est qu'on rebondit. Quand on s'enfonce, qu'on rebondit, qu'on s'enfonce, qu'on rebondit, là c'est vraiment bien. Et c'est là qu'on gagne un peu la vraie humilité. C'est pas celle où on se déprécie, mais c'est celle où on se renforce presque. Parce qu'on sait qu'avec l'aide de qui de droit, sa famille, les gens que Dieu a mis autour de vous, le Seigneur lui-même, ben vous pouvez compter sur lui. Maintenant, je vais faire un test. Qu'est-ce qu'on retient également sur notre attitude par rapport à l'apprentissage, par rapport... Vous savez, la première des questions, c'est on apprend sur le tas. Il arrête sur le tas. Là. Il provoque Jésus. Jésus dit, ça, je peux dire, il regarde pas, il s'enfonce. L'autre, c'est un petit peu sur ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on retient du fou sur le sable et du sage sur le roc? C'est quoi le fou? Qu'est-ce qu'il a fait, le fou?
Il a construit sa fondation.
Ouais. Il a construit sur quoi?
Sa fondation.
C'est sur le sable.
Ouais. Et le sage, il a construit sur quoi? Et c'est quoi le roc? Et bien, vous avez tout. Nous avons tout faux. Parce que ça, c'est un peu simple. Ce qui est dit, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Mais celui qui écoute les paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Voyez ma provocation. C'est pas qu'on puisse construire sur Christ est là, le sable est là, mais on construit sur ce paradigme. Est-ce que quand j'entends la parole, je l'applique, ou est-ce que j'entends la parole, je l'applique pas? J'ai fait cette provocation parce que je pense qu'elle est très profonde pour moi. Si je suis pas une fois pour toutes sur l'Europe, pas une fois pour toutes sur le sable, mais c'est ma relation à la parole, c'est ma relation de la foi à l'écoute qui pèse vraiment. Alors, je dois dire, j'aime bien ce genre de choses. En plus, c'est prouvé par l'interaction avec un bon théologien qui n'est autre que mon beau-frère. Donc, j'aurais jamais osé parler de soi, de ça, si je n'avais pas testé ça sur mon beau-frère il y a quelques semaines. Et c'est intéressant. En vue de cette conférence, ça m'a un peu appris. Qu'est-ce qui, au fond, est vraiment important et qui vous tient relié au fait que, quoi que vous fassiez, et quelle que soit un peu votre carrière et tout ça, vous ne tombiez pas de la roche tarpéenne, parce que ça fait extrêmement mal, puis ça détruit tout. Ça détruit tout. Alors qu'est-ce que ça peut donner si ça détruit tout? Et heureusement, Dieu m'a protégé. Je vois les hommes de pouvoir que je peux fréquenter, je ne les critique pas. Mais quand vous arrivez du jour au lendemain, ou à un moment donné, dans l'obligation de contrôler ce qui se passe autour de vous, et plus vous prenez de l'âge à un moment donné, plus vous avez besoin de contrôler. Parce que l'absence de contrôle, c'est terrible. Il faut contrôler les choses. Bien les avoir en main. Le jour où David, très intéressant, quand il a fait son adultère avec Bathsheba, a montré que c'est un homme de pouvoir, il n'a pas lui-même envoyé Uri au front, il a utilisé quelqu'un pour envoyer Uri au front. Et c'est l'instrumentalisation d'autrui. Le jour où vous instrumentalisez quelqu'un, parce que vous avez de l'influence sur lui, vous devenez un homme de pouvoir. Et ça ne m'avait jamais frappé avant, mais c'est tellement vrai. Quand vous avez le pouvoir d'influencer les actes d'autrui pour faire quelque chose qui est votre propre désir, là vous rentrez dans les sphères du pouvoir. Et du coup, la capacité d'instrumentaliser et de manipuler est extrêmement grande. Et puis l'orgueil. L'orgueil, ça n'est jamais qu'au fond, tout se tourne vers moi, puis j'en ai besoin, etc. Et l'orgueil, et c'est pas pour les chrétiens, ça arrive, il y a des moments où on est flatté, il y a des moments, quand on a sauvé des entreprises, on est pris par ça, je suis passé par là, et voilà, il faut prendre d'autres personnes, il faut revoir sa femme, au bout de 15 jours, on tournait autour du monde, tout le monde vous a dit à quel point il était content de ce que vous aviez fait, etc. pour dire au fond, voilà, voilà ce qu'on est, de façon positive. Donc vous pouvez dire quelle vie tourmentée, quelle vie a tourmenté, il agit, il réfléchit, il est provocateur, plein de choses, peu importe. Là où je suis content, et c'est là que je reviens à l'humilité, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Et pour moi, c'est vraiment ça, presque la définition de l'humilité. Quand Dieu me fait grâce, eh ben, je suis un homme, je n'ai pas besoin de me déprécier, je peux même me réjouir. Voilà, notre chemin sur terre est ce qu'il est, notre histoire est ce qu'elle est. Nous sommes exposés, comme tout un chacun, à tous les excès de ce que la tentation peut être. Et plus vous êtes dans les choses poussées, plus les choses deviennent peut-être excessives, j'en sais rien. Voilà. Moins vous avez les moyens peut-être d'y résister aussi, j'en sais rien. Mais à la fin, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Voilà mon témoignage sur la carrière, sur l'ambition, réflexion de Béotien, et in fine sur l'humilité. Et je vous remercie.
Merci.